de fait, disons, la possibilité de se retirer des liens, la possibilité de mettre en sourdine des liens, la possibilité de sortir même des liens est une possibilité qui correspond à un grand luxe, je pourrais dire. On sait, grâce à l'anthropologie, que plus les sociétés sont antilibérales et, on pourrait dire, archaïque en ce sens, qui n'est pas le cas des sociétés dites primitives, pas toutes en tout cas, plus les règles de conduite sont nombreuses. Et les sociétés libérales, on va dire, sont des sociétés qui se caractérisent par un allègement finalement de la structure coercitive et par un allègement des règles, des lois, des normes en vigueur. Donc on peut voir dans l'allègement des liens en quelque sorte une espèce de modus vivendi, des démocraties libérales. Alors, je laisse la question des démocraties de côté, mais pour dire qu'on est quand même dans un régime qui s'est quand même un peu répandu sur la surface de la planète. Démocratie libérale, bon, c'est un terme de Tocqueville, mais qui signifie simplement l'association entre un principe de gouvernement populaire et un principe de limitation du gouvernement. Bon, je crois que c'est vraiment juste ce cadre-là qui mérite d'être pointé ici. Bien, alors effectivement, là même, bon, je citais Walzer à l'instant, mais même si on remonte à Bentham, etc., le droit d'être laissé tranquille est un droit hein, constitutif et constitutionnel. Et ce droit, finalement, est souvent, je trouve, mis en défaut par non seulement les autres régimes, mais bien des habitudes qui ne nous laissent pas tranquilles dans nos liens, qui ne nous laissent pas les auto-gérer ou les auto-gouverner, d'une part, et puis qui interposent ou qui opposent à des liens un peu flottants, des liens qui seraient beaucoup plus forts. Alors, je dirais qu'il y a toute une tradition même. Enfin, voilà, ces liens faibles, dont je vais parler en termes de face à face, sont des liens qui sont difficiles à instaurer pour des raisons aussi qui tiennent au fait que peut-être idéologiquement ou traditionnellement, nous accordons finalement une préséance, une préférence à la durée dans les liens, à la force des liens, qui nous semble plus humain, plus constitutif, plus nourrissant, plus tourné vers l'avenir, plus enrichissant, plus intense, etc., etc. Donc, y compris au plan, je dirais, esthétique. Or, bon, ce qui est intéressant, c'est que toute une tradition, je dirais, sociologique et en philosophie sociale, qui n'est pas peut-être très, très apparente, quoique ici, beaucoup de gens la connaissent, s'est intéressée, je dirais, aux liens faibles et les a, au contraire, valorisés par rapport aux liens forts. Je dirais que à côté de cette sociologie de la contrainte, je me souviens d'un exposé de Cyril Lemieux, enfin un exposé ou un ensemble de séminaires qu'il faisait à l'EHESS sur qui présentait la sociologie aux étudiants. Et il avait mis en relation justement toutes les, enfin le courant sociologique, l'histoire de la sociologie et d'ailleurs en grande partie des sciences sociales et de l'anthropologie également, avec en regard de la contrainte. Et effectivement, Martine le disait, on a vraiment une pensée de la sociologisation ou de la socialisation comme contrainte. C'est-à-dire que finalement, on devient des êtres socialisés dans la mesure où on subit des contraintes, alors que s'explique aussi bien psychanalytiquement que sociologiquement ou socialement ou anthropologiquement. En gros, l'homme est une espèce de sauvage qui accède à la civilisation par l'intermédiaire de l'intériorisation de contraintes extérieures. Et finalement, sans d'ailleurs, bon, il faut de la loi, il faut de l'autorité, il faut des coups, il faut de la menace, il faut de la récompense. Bon, bref, il faut des contraintes d'un genre ou d'un autre, sinon nous serons un loup les uns pour les autres ou un être totalement isolé. Donc voilà, je dirais cette sociologie de la contrainte, c'est enfin cette pensée sociale de la contrainte comme coup d'envoi en quelque sorte, qui va se répercuter d'ailleurs dans un certain nombre de théories du contrat, hein, dans un certain nombre de théories politiques, et comment dire contrebalancée, je dirais, dans notre panorama intellectuel, est contrebalancée par une autre vision qui a été beaucoup marginalisée, y compris par les philosophes de la contrainte, notamment Durkheim, Lévi-Strauss, bon, enfin, voilà, qui ont évacué beaucoup de gens, à savoir justement les philosophes ou les sociologues, les théoriciens sociaux du face-à-face, les théoriciens de la sociabilité. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant de le découvrir. Je trouve que c'est une bonne occasion. Je vous remercie d'ailleurs de nous la donner ici. Enfin, je pense encore une fois que beaucoup d'entre vous les connaissent bien, mais ça peut être intéressant donc justement d'explorer un peu cette nébuleuse, enfin de l'explorer très superficiellement. Alors, je parle du face-à-face, ça n'est pas la seule manière hein, de parler de la sociologie des interactions flottantes en quelque sorte, mais ça me semble être bon, une bonne manière de à la fois de mettre en perspective nos concepts ordinaires et de changer un petit peu de position, de terrain. Alors ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, enfin face-to-face relationship, c'est un terme en anglais. Je ne suis pas trop dans les autres langues, mais en français, on n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin, bon, j'ai pris les relations face à face. Est-ce que je veux dire les relations deux ou en face à face? Je ne sais pas. Mais bon, on a l'expression dans la littérature des relations interpersonnelles, mais ça ne dit pas la même chose, hein, puisque justement la personnalité est plutôt idiosyncratique. La face est un mélange, je dirais, pour dire les choses très rapidement, c'est un mélange justement de quelque chose qui est personnel et de quelque chose qui n'est pas personnel, de quelque chose qui est commun ou partageable. Donc, je laisse de côté les subtilités de langage, mais disons que on peut utilement distinguer la face. Alors, je commencerai un peu comme ça. Comment, enfin, déjà, attardons-nous sur ce terme de face. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis après, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un face-à-face? Alors, bon, c'est très difficile de parler de la face sans parler de face-à-face, puisque les faces sont telles face à d'autres faces, en quelque sorte. Mais que l'on consulte, voilà, les auteurs dont je vais parler, c'est-à-dire que l'on consulte Cooley, que l'on consulte Zimmel, que l'on consulte Elias, que l'on consulte Gabriel Tarde, etc. Enfin, je vais en parler au fur et à mesure. La face est un mélange de qualités subjectives et de qualités objectives. C'est-à-dire que d'une part, on peut déjà la distinguer du regard. Par exemple, le regard qui serait un mode de reconnaissance de l'autre en tant qu'autre, et le regard ici, je dirais, met l'accent sur une coprésence de type visuel. Hein, bon, c'est ça le regard. Et la, disons la préséance donnée au régime de la visibilité dans les relations face à face est en soi déjà un problème, puisque très précisément, la face ne va pas se réduire à un régime de coprésence visuelle, mais va intégrer tous les autres aspects de la présence, de la coprésence physique et des corps, finalement, qui inclut, et bien sûr, ou qui concerne absolument tous les sens. Donc, ça n'est pas le regard, ça n'est pas non plus la conscience de soi qui serait issue d'un passage par la reconnaissance de la conscience de l'autre, puisque la conscience de soi est aussi un phénomène, on va dire, à partir de, même chez Hegel, un phénomène purement subjectif. Ça n'est pas non plus le visage. Hein. Ça, c'est intéressant. Alors, je pense, il y a beaucoup de liens avec la pensée de Lévinas, enfin, en tout cas un certain nombre de proximités, mais il est vrai que Lévinas va parler, par exemple, du visage en termes de nudité, de vulnérabilité. C'est la veuve, l'orphelin, l'étranger. Je vais très vite, hein, excusez-moi, des simplifications. Mais pour dire qu'au contraire, la face est un attribut lesté de toutes sortes de qualités qui ne sont pas fixes, cela dit, mais de qualités qui vont être modifiées éventuellement par des relations avec d'autres faces. Donc, quoi qu'il en soit, chez Lévinas, finalement, le visage permet de penser l'autre en tant qu'autre, mais en quelque sorte sans aucune qualité, et même le fait même d'attribuer une qualité à l'autre, pardon, et une manière de l'objectiver chez Lévinas, et donc de nier finalement sa dimension indéterminée face à moi, et finalement la seule détermination, enfin c'est pas vraiment une détermination, mais la seule qualité qui serait attribuable au visage en tant que visage, c'est interdit de me tuer, quoi, en gros, chez Lévinas. Donc, mais là, avec la face, ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui est déjà interne à un processus de socialisation. Il n'y a pas de face dans l'état de nature, en quelque sorte, la face est la résultante d'une socialisation. Alors, on va voir en quoi. Je vais commencer par, disons, Cooley, qui est un auteur qui est vraiment très intéressant, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle La nature humaine et l'ordre social, qui date de 1902. Texte dans lequel il nous présente ce très célèbre Looking Glass Self qui va se constituer, nous explique-t-il, en trois étapes. Alors je lis un petit passage. Une idée de soi-même est composée apparemment de trois éléments principaux. L'imagination de notre apparence pour une autre personne, l'imagination de son jugement sur cette apparence, et un sentiment personnel comme la fierté ou l'humiliation. Le troisième, alors fin de la citation, le troisième étant bien sûr relatif à notre réaction, non au jugement d'autrui, mais à l'idée que nous nous faisons de ce qu'il pense de nous. D'où la conclusion, je ne suis pas ce que je pense que je suis, Et je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Hein? I'm not what I, bon, etc., etc. Donc là, en fait, c'est assez simple et chacun, bon, pour peu qu'on, voilà, on s'attarde à chaque séquence de la phrase, on va reconnaître très très facilement des attitudes très généralisées et dont nous avons une très grande habitude. C'est-à-dire que finalement, nous nous forgeons en tant que individualité, on va dire, pour résumer un peu tous les termes possibles, nous nous forgeons en tant qu'individualité dans la mesure où nous nous accordons aux attentes des autres, ou plus exactement à ce que nous pensons être les attentes des autres vis-à-vis de nous-mêmes et de notre comportement. Alors évidemment, alors c'est avec Georges Abbat Mead, je pense, je l'avais vaguement évoqué, que se met en place une exploration peut-être je dirais plus pragmatiste, hein, finalement, de la formation du sujet humain. C'est surtout, bien sûr, dans L'esprit, le soi et la société, très heureusement retraduit par Daniel Céphaille et Louis Quéré en 2006, Mind, Self and Society, qui est un texte issu de travaux d'étudiants, enfin de notes d'étudiants, qui a été publié en 1933. Donc, Mead nous explique quelque chose donc de différentes instances psychiques qui composent le sujet humain. Et ces instances psychiques, donc, vont être distinguées suivant justement le degré de réactivité et de proximité vis-à-vis, donc, du rôle social et d'autrui face à moi. Alors là aussi, je vais extrêmement vite, hein, pour parler de cela. Je passe par une petite citation. C'est seulement parce que l'individu se trouve prendre les attitudes des autres individus qui sont impliqués par sa conduite. Alors c'est pas, voilà, je ne vais pas m'ajuster à la conduite des Martiens, puisque de toute façon, je n'ai pas de relation avec les Martiens. Donc, qui sont impliqués par sa conduite, c'est-à-dire en fait qui sont impliqués, je sais pas, qui sont soit impliqué imaginairement, soit impliqué concrètement ou matériellement, soit anticipé, soit souvenu, bon, etc. Donc, mais en fait, l'implication ici n'est pas réductible à de la coprésence. Donc, je reprends. C'est seulement parce que l'individu se trouve prendre les attitudes des autres individus qui sont impliqués par sa conduite qu'il devient un objet pour lui-même. Alors, le terme d'objet est un tout petit peu problématique, mais en même temps, dans la mesure où, finalement, c'est la qualité d'objectivation de soi-même qui nous permet de constituer une unité, en quelque sorte, psychique et subjective. Alors, c'est intéressant. Alors, je continue. C'est seulement en prenant le rôle des autres, d'où ma remarque l'autre fois, c'est seulement en prenant le rôle des autres que nous avons pu revenir à nous-mêmes. Le soi, self, ne peut exister que s'il assume le rôle des autres. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la face, là, la face, hein, non pas le visage, exprime non le rôle social de l'individu, mais la personnalité de l'individu socialisé. Alors, je voudrais insister un tout petit peu là-dessus parce que la distinction ici, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que le rôle est une partie disons, la prise de rôle est une des fonctions psychiques que Mead discerne chez l'enfant. Moi, à mon avis, qui est un petit peu incomplète dans la mesure où Mead ne prend pas suffisamment en considération, je dirais, ce que Rousseau a appelé l'éducation des choses. Et effectivement, il peut y avoir aussi des identifications aux choses et, disons, des formes de relations à soi par l'intermédiaire des choses qui ne passent pas par l'activité symbolique et l'intersubjectivité qui est supposée ici. Mais c'est pas exactement l'intersubjectivité non plus. C'est-à-dire que je ne peux prendre, d'abord, le moi, enfin, je sais pas si je rentre dans les détails parce que c'est assez compliqué. D'ailleurs, moi-même, je m'y perds souvent entre le soi, le je et le moi. Bon, c'est des questions. Alors, le soi, c'est. Enfin, en gros, le moi est, disons, la dimension du sujet humain qui apparaît à travers, disons, les prises de rôle multipliées, comme les enfants qui jouent à la marchande, au docteur, à la maman, au papa, etc. Donc là, la prise de rôle, c'est un peu comme Sartre dans Les mots au début, voilà, qui. Là, il s'identifie à des tas de gens. Mais alors évidemment, il s'identifie pas à des caractères, à des personnages, au sens où il leur ressemble. Il s'y identifie dans la mesure où il les interprète comme étant, en quelque sorte, des parties de lui-même. Donc, la prise de rôle est quelque chose qui est important, mais j'y reviendrai après avec Tarde. L'imitation suppose toujours une invention. C'est ça que j'ai envie de dire, et c'est un peu le fil de mon exposé. L'imitation ici, enfin la prise de rôle n'est pas exactement une imitation, c'est une interprétation d'un rôle, mais c'est par l'intermédiaire de la prise de rôle, c'est par l'intermédiaire du fait de jouer un rôle que on peut se donner les moyens d'imaginer finalement quelle est l'organisation psychique du personnage dont on emprunte le rôle. Et c'est comme ça que finalement on va se socialiser hein, chez Mine. Bon, après, vous avez, disons, l'instance qui organise les rôles entre eux, qui les hiérarchise, et surtout cette instance qui nous permet d'adapter notre rôle à la situation. C'est-à-dire que, bien sûr, le docteur, face à un vieillard, il n'a pas exactement le même rôle que face à ma maman, par exemple. Et donc, il y a quand même toute une espèce de réflexion et de calcul, parfois, ou d'adaptation, enfin, ce qu'on peut appeler vraiment un ajustement ou à la situation, une adaptation, qui fait que, finalement, les rôles sont révisés en permanence par l'intermédiaire de leur confrontation à la situation telle qu'elle est. Et puis, il y a finalement aussi l'instance psychique, si on peut dire. Bon, c'est pas du tout freudien, hein, ce que je dis. Mais cette dimension psychique qui consiste à critiquer éventuellement les rôles, à s'en départir, et puis aussi à les faire coaliser, à les relier les uns aux autres. Et finalement, l'ensemble de ces liens, alors qu'ils sont à la fois d'ailleurs faibles et forts, c'est intéressant entre ces trois parties, entre ces diverses activités, ces rôles, etc., et ces transformations ultérieures des rôles au contact des situations, c'est finalement ce que Mead va appeler le self, hein, le soi. Donc le soi qui est vraiment un résultat. Donc ce qui est important, c'est que le rôle n'est jamais, alors c'est évidemment le rôle n'est jamais une la résultante de l'exercice d'une contrainte extérieure. On n'est jamais contraint par un rôle, on le joue. Hein. Et donc, comme tu le disais aussi à propos de ta présentation, il y a une dimension ludique mais qui tient du play, du playing aussi, mais aussi du game. Hein. Enfin, et chez Mead, est très, très précieux pour cette distinction qu'il a établie justement entre le fait de jouer... avec soi-même via des rôles et le fait de jouer avec les autres via des règles qu'on respecte ou qu'on instaure d'ailleurs, hein, comme les enfants dans la cour de l'école qui n'arrêtent pas de jouer à faire des règles et à déréguler ou déréglementer leur propre jeu. Donc ce qu'on voit ici, c'est que si vous voulez, même si le soi n'est pas natif, il n'est pas inné, il n'est pas constitué par avance, d'une certaine façon, il accède à lui-même par l'intermédiaire d'une socialisation qui n'est pas une contrainte. C'est-à-dire que et tous ces termes se tiennent. C'est-à-dire que l'individualité psychique contrainte n'accède pas à la dimension de soi. C'est ce que les pragmatistes ont appelé la démoralisation. D'ailleurs, enfin, les pragmatistes et les sociologues interactionnistes, hein, une démoralisation, il y a un individu perdu. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce processus, je ne veux pas insister, mais ce processus qui, là, en l'occurrence, n'est absolument pas contraint par des structures sociale, qui n'est pas contraint par, en quelque sorte, des habitudes très fortes, des conventions, des normes, des règles édictées, des lois inscrites dans le marbre, et justement l'individualité libérée. C'est-à-dire que c'est en inventant, d'une certaine façon, sur la base des rôles empruntés, sa propre position dans le monde, qu'on devient un sujet à part entière. Alors, bon, ça va très très vite là, ce que je dis, c'est incomplet, mais en même temps, je crois que c'est une manière d'évaluer le caractère précieux, je dirais, de ce que vous avez appelé les liens faibles, dans la constitution même de l'individualité libre, enfin, l'individualité et la liberté s'appelant l'un et l'autre. Donc, la face, finalement, c'est comme l'atome des liens sociaux, hein, on pourrait dire. Mais alors, c'est pas, encore une fois, bien souvent, il n'y a pas de face. Il y a des gens sans face, soit parce que l'environnement n'a pas la plasticité qui leur permettrait de s'inscrire comme face dans le monde, soit parce qu'on ne la reconnaît pas comme telle, soit parce qu'ils ont été tellement déstructurés à la base qu'ils n'accèdent pas finalement à la complétion psychique du soi. Alors bien sûr, on pourrait. Alors je ne vais pas rentrer dans Goffman parce que alors lui c'est quand même le grand philosophe et le grand sociologue de la face, de la face, en fait. Mais je vous cite simplement sa définition dans le chapitre 1 des rites d'interaction. La face est une image du moi délinéée selon certains attributs sociaux approuvés et néanmoins partageables. Donc là, en l'occurrence, chez Goffman également, la face est toujours une affaire d'adaptation à la situation. Et dans cette adaptation à la situation, comme il dit, on reçoit et on donne, et c'est là, à ce moment-là, qu'on va entrer donc dans le domaine du face à face. Donc les faces sont les résultats de relations face à face ou de relations en face à face. Il n'y a de face qu'en interaction avec d'autres faces. Et là, j'en viens à un concept que j'ai beaucoup apprécié, qui est celui de sociabilité. le concept de sociabilité, donc chez Wimmel en particulier. Concept qu'il définit de la manière suivante, c'est le fait d'être avec d'autres personnes agréablement. Donc c'est le plaisir de la compagnie d'autrui qui va définir la sociabilité. Alors aujourd'hui, je crois en particulier chez disons les penseurs du don et de la forme d'économie, etc. Donc il y a de plus en plus d'importance associée à finalement cette catégorie de tout simplement de la philia, hein, pour parler comme Aristote, parce que c'est juste une philia. Enfin c'est une forme d'amitié. La sociabilité est une forme d'amitié, mais il se trouve que cette sociabilité qui est une forme d'amitié et dont on parle en termes de convivialité ou de... Il y a un autre terme qui est utilisé en ce moment en français, la convivialité, et puis là, non, il y a un autre mot qu'on voit là de plus en plus, la familiarité, oui. Alors ça, je ne comprends pas, la familiarité, je l'ai vu, ça, familiarité, les familiarités. Bon, enfin, bref. Donc, oui, alors là, le convivialisme, oui, ça, oui. Mais non, mais il y a un autre terme, bon, enfin, peu importe. Donc, en tout cas, c'est la sociabilité, mais c'est vrai que sociability en anglais, ou Geselligkeit en allemand. Voilà, ça c'est des termes qui ont toute une histoire, alors que celui de sociabilité, en fait, ça n'apparaît pas tellement avant 1970. Hein. C'est un terme qu'on ne va pas tellement utiliser dans les sciences sociales avant 1970, mais en revanche qui est utilisé par Wimmel en 1910, dès 1910 et même sans doute avant. Donc, je vous lis un petit passage, et extrait de Sociologie et épistémologie. Bon, c'est un ensemble de textes parus aux presses universitaires de France en 1981, mais qui sont bien sûr beaucoup plus anciens. La sociabilité crée, si l'on veut, un monde sociologiquement idéal. En elle, la joie de l'individu particulier est absolument liée au fait que les autres soient également à leur aise. Dans ce cas, personne ne saurait éprouver de satisfaction au prix de sentiments entièrement contraires à ceux de l'autre. Donc ici, voilà une définition à la fois ludique, amicale et plaisante, esthétique, on pourrait dire, de la sociabilité. Mais il se trouve que ça n'est pas un ornement, chez Wimmel, un ornement accessoire de la vie sociale, c'en est au contraire la forme, dit-il, la plus pure, et je dirais même c'est la forme sans laquelle aucune vie sociale véritablement humaine, hein, pour parler à nouveau comme Aristote, n'est possible. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'inscrire donc finalement ce plaisir qu'on a comme une vie sans amis ne vaut pas la peine d'être vécue, mais ici c'est pareil, c'est l'idée que finalement une vie sociale qui vaut la peine d'être vécue est une vie qui repose sur le plaisir que nous prenons à la compagnie les uns des autres. Et donc, chez Wimmel, la sociabilité va être dite une miniature de l'idéal social. Ça, c'est la page 134 du texte que je viens de citer. Ce qu'il y a de spécifiquement social dans l'existence humaine ne peut pas être cerné, je veux dire, à partir de contenus matériels des associations existantes, et en particulier de toutes ces associations reposant sur des liens forts. La vision. Alors, on peut rétorquer aux philosophes ou aux sociologues de la contrainte ce que Aristote va rétorquer à Platon. Hein, c'est vraiment la même histoire. La société n'est pas une société de besoin. La société humaine, c'est une société du bien vivre. Et là, on va retrouver exactement les mêmes, enfin, des formulations qui rappellent, même si bien sûr les méthodes et les épistémes, enfin les soubassements métaphysiques sont très différents. C'est intéressant de comparer. L'être social de l'homme, donc, se découvre la sociabilité qui transforme la juxtaposition, l'agrégation, le besoin, la contrainte en union sociale. Par elle, écrit Wimmel, s'opère une action réciproque dont provient, à l'inverse d'une agrégation, une existence commune et solidaire. Hein. Mais commune et solidaire parce que plaisante. C'est vraiment très important de relever ça. Donc cette action réciproque entre les participants ne vise rien d'autre que de créer une situation de mutualité et de la faire durer un certain temps, le temps qu'il leur plaira. Elle n'obéit à aucune contrainte, elle ne se conforme à aucun impératif, elle ne vise aucune utilité, elle n'est motivée par aucun besoin. Alors je cite l'échange social dont il est question ici, c'est... ouvrez les guillemets, un lien de réciprocité qui flotte en quelque sorte librement entre les individus. ce lien qui flotte entre les individus. Alors, je trouve ça extrêmement joli comme enfin et puis en même temps c'est alors enfin même si je n'ai pas été particulièrement touchée par la notion de visage chez Lévinas, il en parle en termes de miracle et il y a quelque chose de miraculeux. Justement, ces liens qui flottent librement entre les gens, c'est miraculeux, mais en même temps, c'est d'un banal, enfin, ou d'un ordinaire, plus exactement. Bon, en même temps, voilà, c'est très fragile, ça disparaît, ça revient, c'est difficile à établir, mais bon, ça tient du miracle et en même temps, ça tient de l'ordinaire. C'est ce sans quoi, bah, justement, la vie sociale est d'un triste affligeant. Donc, il naît toutes sortes de plaisirs, hein, de plaisirs de cette ce lien de réciprocité qui flotte librement entre les gens. C'est d'abord le plaisir inhérent à la satisfaction qu'apporte la vie sociale en tant que telle, la satisfaction qu'apporte le fait d'être libéré de tout but, justement. Car le lien est apprécié pour lui-même, il est détaché des circonstances matérielles et des motivations éventuelles auxquelles il a été lié, grâce auxquelles il a pris naissance. Ensuite, c'est le plaisir du contact, de la compagnie des autres, et c'est finalement le plaisir. Alors, en fait, les termes qui sont employés sont ceux de Kant, enfin, quasiment ceux de Kant dans sa faculté de juger. C'est une satisfaction libre et désintéressée, sauf que, bon, évidemment, il y a des différences à établir que je laisse ici de côté, mais disons, la satisfaction qui est en jeu est une satisfaction de type, je dirais, esthétique, et c'est cette satisfaction qui va innerver le tissu social pour lui donner une qualité, je dirais, à la fois humaine et, pour choquer Catherine, encore une fois, démocratique. Bon, enfin bref, c'est pas. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs de comparer avec Rousseau, hein. Chez Rousseau aussi, il y a une vraie, disons, une valorisation des liens qui flottent librement entre les gens, en particulier dans le discours sur l'origine de l'inégalité. C'est intéressant de voir comment finalement le lien qui flotte librement, quand tout le monde se met à danser, à chanter, ce fut l'époque la plus heureuse de l'humanité. Et je dirais que le contrat social de Rousseau vise à, d'une certaine façon, à recréer cette ambiance festive de fête. Bon, bref. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, surtout quand il écrit sur la Genève ou la Corse. Et par contre, à partir du moment où on commence à faire tout ça en vue de se comparer, d'être vu, d'être évalué, d'être le meilleur, etc., là, le lien devient contraint et tout s'arrête. La société n'est plus un plaisir, ça devient un cauchemar. Et finalement, elle se dégénère. Enfin, toute société où les liens forts remplacent entièrement les liens faibles est une société dégénérée. Voilà. Donc, la situation est libre, elle est désintéressée. Et là, bon, Zimmel doit beaucoup à Kant. Elle repose sur un jeu. Il écrit: la sociabilité, c'est la forme ludique de la socialisation. Elle n'ambitionne rien d'autre que d'être, dit-il, un écho d'elle-même. Elle est entièrement orientée vers la personnalité. Ne faisant intervenir des qualités, que des qualités telles l'amabilité, la cordialité, la civilité et choses de ce genre. Alors, ce qui est intéressant aussi, à travers en particulier l'analyse de la conversation et dans les textes, dans le même texte que celui où il est question de sociabilité, ce qui est intéressant, c'est aussi de s'attarder un peu aux conditions. Alors, je vais très très vite là, les conditions finalement de la sociabilité, les conditions d'instauration et de maintien de ce lien qui flotte librement entre les individus sont très compliquées et demandent justement tout un apprentissage, toute une culture. On voit déjà une ébauche assez développée chez Zimmel, il y en a une autre chez Elias, hein, quand il analyse la vie dans les salons, mais également, bien sûr, chez Goffman, qui va être vraiment le philosophe de comment faire durer les interactions sociales qui flottent librement entre les gens, sachant que, évidemment, tout s'oppose à ce qu'elles durent. Surtout dans les systèmes des institutions totales dont il est le contemporain et dont il va décrire les conséquences. Alors, justement, parmi ces conditions, Zimmel dit qu'il ne faut être ni objectif ni subjectif. Et c'est cet équilibre un peu précaire entre le très objectif et le très subjectif qu'il décrit à travers son analyse des conversations de sociabilité. Par exemple, il explique qu'au cours d'un échange, enfin, si au cours d'un échange, l'un d'eux se livre à l'autre comme un confident, c'est-à-dire s'il se déverse, et justement la conversation exclut l'intime ici. Il est vrai qu'il y a, enfin là il a été quand même souvent question de l'intime et d'utiliser finalement le lien faible comme occasion d'un déversement de la subjectivité dans l'oreille de l'autre, je pense que c'est bon. Bon, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une tendance qu'on a, hein, comme disait Spinoza, il n'y a rien de moins qui soit en notre pouvoir que de se taire quand on a envie de parler, mais et quand l'occasion est donnée. Mais cela dit, c'est quand même une pente, hein, qui tue la conversation, hein. Et ça, Zimmel met bien l'accent sur le fait que, à partir du moment où l'un, disons, se déverse en l'autre, c'est-à-dire se livre, dévoile son intimité, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien intime, hein, mais en tout cas, disons, effectivement, dévoile quelque chose de lui qui risquerait non seulement de mettre l'autre mal à l'aise, mais surtout de l'empêcher d'être un acteur de la conversation. Alors à ce moment-là, la conversation s'arrête. Mais par ailleurs, les grands discours scientifiques, les démonstrations, etc., ne sont pas non plus de l'ordre de la conversation. Donc, il faut arriver à être ni très subjectif, ni très objectif. Il ne faut pas être donneur de leçons, mais il ne faut pas non plus y aller de son individualité intérieure, etc. C'est pourquoi, dit Zimmel, le sens du tact, c'est ça le tact, hein, c'est cet art de se tenir sur ce fil. Qui passe ailleurs que dans l'objectivité, la communication objective et rationnelle d'un côté et le déversement de l'autre. Donc le sens du tact c'est pourquoi le sens du tact est tellement important dans la société, parce qu'il assure l'autorégulation de l'individu dans ses rapports personnels avec les autres, là où aucun intérêt extérieur ou immédiatement égoïste ne se charge de cette tâche. Donc il y a toutes sortes de règles, alors qui sont bien sûr inculquées, apprises. Il faut un entraînement, je dirais, c'est peut-être le terme qui est, il faut de l'expérience, il faut de l'entraînement, il faut s'entraîner à la sociabilité. Ça n'est pas du tout spontané, c'est très difficile. Les analyses de Goffman sur le gaffeur sont là pour nous le rappeler, et puis soi-même, je pense qu'on fait beaucoup de gaffes. Et donc, il y a des règles, la politesse qu'on appelle les civilités, hein, la politesse, l'amabilité, l'attention portée à l'autre. Il y avait bien sûr, dans les salons où l'on conversait, aussi des maîtresses de la conversation qui assuraient les tours de parole, qui évitaient les sujets qui fâchent, qui voilà, organisaient les sujets à l'avance, etc., etc. Donc, en tout cas, il faut que les interlocuteurs acceptent dans la conversation de jouer à la société, hein, c'est une expression qu'on trouve aussi chez Zimmel, mais que cette manière de jouer à la société ne soit pas mécanique, qu'elle leur soit propre et qu'elle dénote aussi leur sens, leur souplesse, leur ajustement, capacité de s'ajuster à la situation et leur inventivité, leur créativité, etc., etc. Donc c'est vraiment la conjonction entre le respect d'un certain nombre de règles et l'invention d'une forme d'échange à chaque fois singulière qui donne lieu à ce que Zimmel va appeler une liberté dans la servitude. Et bon, la formule est paradoxale, mais en même temps, je pense qu'elle est. Voilà. Et c'est ainsi, d'après Goffman, que chaque giver est un receiver, que celui, voilà, qui a donc ce qu'il appelle des interactions et que nous arrivons à nous. Vous entendez que chaque receiver is a giver, je ne sais pas trop comment dire, le récepteur est un donneur. Pour insister juste sur l'importance que Goffman va accorder à juste titre, d'ailleurs, à cette affaire de lien qui flotte librement entre les gens, il écrit ceci, c'est absolument essentiel. Hein. Pour lui, toute sa sociologie et finalement toute sa vision du monde repose sur. Comment on se situe par rapport à ça? Comment on pratique? Comment on s'entraîne? Quelle place la société donne à ces liens faibles, enfin à ces liens qui flottent, etc., etc. Alors il écrit, ça c'est dans l'ordre de l'interaction, les moments et les hommes, je sais plus où j'avais pris ça. L'étude des interactions en face à face ou face à face dans les cadres naturels n'a pas encore été nommée de façon adéquate. Ma préoccupation pendant des années a été de promouvoir l'acceptation de ce domaine du face à face comme un domaine analytiquement viable, un domaine qui pourrait être dénommé, à défaut d'un nom plus heureux, l'ordre de l'interaction, un domaine dont la méthode d'analyse préférée, la micro-analyse. Donc là, je n'apprends rien à la plupart d'entre vous, mais d'un côté, enfin, mais c'est quand même une manière de juste simplement d'insister, voilà, sur l'importance de cette zone. De cette zone extrêmement fluctuante, où il y a aussi beaucoup d'éphémères, justement, de cette zone fluctuante où, qui, pour, disons, nos philosophes et nos penseurs penseurs sociaux déterministes ou très politiques au sens étroit du terme pourraient sembler totalement, comment dire, accessoires. Alors, sachant que évidemment les dangers qui guettent les relations face à face sont extrêmement nombreux, à la limite c'est plus facile de perdre la face que de la garder justement. Goffman appelle figuration, voilà, l'art de garder la face, hein, c'est la figuration. Alors là aussi, bon, on a un peu l'idée de prise de rôle, de jeu, mais surtout toujours le jeu qui suppose, c'est ça, le jeu comme dans tous les sens du terme, qui suppose toujours de, comme Wittgenstein l'a tout à fait, il a insisté, non pas à suivre des règles, mais à considérer les règles comme une manière d'être ensemble. C'est-à-dire à ne valoriser ou à ne poser des règles que dans la mesure, justement, où elles sont activées en commun. Il existe alors au moins deux manières hein, de garder la face, d'éviter que la conversation tombe dans un froid glacial et que l'ennui s'installe ou que l'animosité domine. Donc le premier, c'est d'éviter les mauvais sujets, d'éviter les sujets qui fâchent. Hein, ça, c'est quand même une bonne technique pour éviter de se fâcher. Éviter les attitudes qui blessent ou choquent. Alors ça aussi, c'est pas inné, ça s'apprend. Et c'est très intéressant aussi d'analyser justement la question du voyage et de l'ethnologie à travers cet apprentissage-là. Donc le comportement adopté plutôt, il est d'autant plus prudent que il doit être d'autant plus prudent qu'on ne connaît pas trop la réaction possible des gens et on ne sait pas trop identifier leurs attentes. Alors là, on va marcher justement sur des œufs. Donc voilà. Donc parfois, on va faire preuve, mais là, ça sera justement un problème de politesse excessive. En revanche, il y a un moyen d'atténuer la possibilité de la gaffe à venir. C'est d'une part de se contrôler, d'autre part de faire des plaisanteries, d'avoir un ton un peu léger, ce qui permet d'atténuer l'impact de nos possibles erreurs de comportement. Et puis sinon, l'autre type, c'est la réparation proprement dite, quand un incident s'est produit et qui ne peut plus être évité, bien sûr. Alors selon les cas, les tentatives pour réparer la situation sont unilatérales, comme dans le cas où je présente des excuses, etc., etc. Alors, il faut aussi présenter des excuses comme il faut, parce que parfois, la présentation d'excuses est elle-même aggrave la situation du gaffeur. Bon, bref. Là, quand la personne, votre interlocuteur est charitable, la présentation d'excuses peut-être, le processus de réparation est bilatéral, l'offenser devant ses excuses en diminuant l'importance du drame qui s'est produit, ou en rassurant le gaffeur. Donc, Goffman parle de rituel négatif à propos de la réparation. Je cite ce passage que j'aime bien. Le rituel négatif mène lui aussi au dialogue, mais moins directement et par une autre route. Les précautions ordinaires n'appellent ordinairement aucun commentaire en réponse. Une délicatesse exemplaire peut provoquer des signes de gratitude avec une limite naturelle due au fait que de telles démonstrations attaquent la vie privée que protégeaient les distances initiales. Alors, donc, il y a une forme quand même de dévoilement dans les processus de réparation, mais qui doit rester suffisamment subtil et ténu pour ne pas créer une gêne supplémentaire. Plus important, toute infraction commise réclame un dialogue, car l'offenseur doit fournir des explications et des assurances réparatrices, et l'offensé faire un signe qui en montre l'acceptation et la suffisance. Bref, un échange réparateur a lieu. Donc, on voit que l'échange réparateur, bien sûr, suppose aussi des processus de... Enfin, des signaux, un langage gestuel adapté, etc., etc., qui permet de conclure l'affaire. Parce que sinon, on n'en finit pas et c'est la guerre qui s'installe. Alors, la partie ce que j'avais prévu comme dernier exemple de lien faible, mais pourtant absolument indispensable à une socialité proprement agréable et humaine, c'est la question de la conversation chez Gabriel Tarde. Alors c'est très très intéressant parce que là aussi c'est un texte, un ensemble. Je vais peut-être simplement vous lire les extraits déjà, comme ça vous allez voir tout de suite que chez Tarde c'est la conversation qui est l'ancêtre de la correspondance, qui est l'ancêtre du journal, qui est une lettre publique, et qui est l'ancêtre de l'opinion publique, et qui est finalement l'ancêtre de la démocratie. Donc tout repose sur la conversation. Donc ça, là encore, ça n'est pas un détail. Il va analyser la conversation exactement dans les termes de lien faible dont on va parler, avec des variables de plaisir, avec des variables d'amusement, de jeu, avec des variables aussi de tact, d'apprentissage, d'entraînement, pour trouver sa juste place, tout en étant très souple dans les relations avec les autres. Alors, le texte en question, c'est un texte qui s'appelle « L'opinion et la foule », qui est tout à fait fondamental à mes yeux. Et donc, Tard considère que la conversation, c'est vraiment, je cite, « l'élément constitutif de la vie sociale ». Donc, ça n'est pas, encore une fois, un détail. « Rien de ce qui est pleinement social n'est hermétique à la conversation ». Voilà, je prends des citations. « Petite source invisible qui coule en tout temps et en tout lieu d'un flot inégal. » Donc, petit flot invisible, petite source invisible, pardon. Elle est comparée au flux de la société, ce qui lui assure sa vitalité. Le phénomène le plus proche, là, en l'occurrence, à nouveau, c'est la sociabilité, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le goût de la compagnie d'autrui. Cette relation dans laquelle la relation elle-même, l'établissement de la relation et le fait qu'elle dure un certain temps, est à soi-même sa propre fin. J'entends tout dialogue sans utilité directe et immédiate, vous allez reconnaître tous les paramètres que j'ai mis en évidence tout à l'heure, où l'on parle surtout pour parler, par plaisir, par jeu, par politesse. Cette définition exclut de notre sujet et les interrogations judiciaires et les pourparlers diplomatiques ou commerciaux et les conciles et même les congrès scientifiques. Il faudrait introduire la conversation dans les congrès scientifiques, ça serait... on essaie de le faire, mais c'est assez difficile. Donc cette définition exclut de notre sujet et les interrogatoires judiciaires, etc., et même les congrès scientifiques, bien qu'ils abondent en bavardage superflu, précise-t-il. Elle n'exclut pas le flirt mondain, ni en général les causeries amoureuses, malgré la transparence fréquente de leur but, qui ne les empêche pas d'être plaisantes par elles-mêmes. C'est le flirt. Elle comprend d'ailleurs tous les entretiens de luxe entre barbares et même entre sauvages. Alors vous voyez, aucun domaine humain n'est étranger à la conversation. Et je dirais qu'on a un texte qui date, si mes souvenirs sont bons, de 1898, et dire que même les sauvages bavardent et on accède au plaisir de la conversation n'est pas si courant que ça à l'époque. C'est même relativement rare. Alors, pour converser, là aussi, il faut un entraînement et Tard va beaucoup insister sur les qualités d'attention qu'il faut porter à l'autre pour entrer en conversation avec lui et faire que la conversation soit plaisante et durable. Il écrit « Jamais, sauf en duel, on observe quelqu'un avec toute la force d'attention dont on est capable qu'à la condition de causer avec lui. » C'est là le plus constant, le plus important effet et le moins remarqué de la conversation. Elle marque l'apogée de l'attention spontanée que les hommes se prêtent réciproquement et par laquelle ils s'entrepénètrent avec infiniment plus de profondeur qu'en aucun rapport social. En les faisant s'aboucher, elle les fait se communiquer par une action aussi irrésistible qu'inconsciente. Elle est par suite l'agent le plus puissant de l'imitation et de la propagation des sentiments, des idées, des modes d'action. Alors, bon, là aussi, on pourrait parler longuement de l'imitation et de ce que... Mais je voudrais simplement dire que chez Gabriel Tard, l'imitation est absolument inséparable de l'invention. C'est-à-dire que, en fait, l'invention est telle, dans la mesure où elle est limitée, et là, je parle des lois sociales d'imitation pour ceux qui ne connaîtraient pas ce texte, donc l'invention n'est telle, elle est bien sûr le fait d'un individu, mais elle n'est telle que dans la mesure où elle est accompagnée en quelque sorte d'un mode d'emploi qui lui permettrait d'être imitée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois donnée aux autres, rendue visible, communiquée, rendue publique, etc. Alors il y a énormément de conditions, et puis aussi reproductible dans une certaine manière. Et là on est un peu au cœur de la question de la science expérimentale, mais en même temps, l'imitation n'est jamais une duplication, si vous voulez. Et ça nous dit aussi des choses sur le phénomène social en général et sur la souplesse finalement avec laquelle le tissu social, excusez la métaphore, se fabrique. un peu comme le royalty franc. Voilà. Enfin, il y a deux points que je voudrais simplement évoquer. Le premier point, c'est que contrairement à ce qui a beaucoup été dit, en particulier par les linguistes, et je pense à des textes en particulier de Todorov, etc., cette fonction de la conversation n'est pas séparable de la communication en général, de la communication la plus technique ou de la communication la moins formelle. Et là, je me tourne vers Malinowski, qui a isolé ce qu'il a appelé la fonction fatigue du langage, qui est une fonction qui est extrêmement intéressante. Et Malinowski, justement, ça c'est un texte qui date de 1923, « Le problème de la signification dans le langage primitif », dans la langue, enfin, je sais pas si ce texte a été traduit en français, « The problem of meaning in primitive languages », dans un recueil qui s'appelle « The Meaning of Meaning ». Et donc, il va nous parler de « Speech Act ». Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Et bon, donc, on parle de la fonction fatigue qui, dit-il, apparaît dans sa forme la plus pure, la plus ordinaire, et ce, aussi bien donc chez les peuples les plus primitifs que chez les plus civilisés. Et d'ailleurs, pour lui, finalement, s'il y a un curseur qui traverse les sociétés et qui nous permet de les orienter du mal-vivre au bien-vivre, c'est bien justement la vitalité de cette fonction fatigue et la valorisation, le degré de valorisation ou d'identification dont elle est l'objet. Donc il dit, la sociabilité se manifeste par un type de discours dans lequel les liens unissant les interlocuteurs sont créés par un simple échange de mots. Cette fonction consiste à établir, là c'est plus la citation, cette fonction consiste donc à établir et maintenir le contact avec l'interlocuteur qui se présente. Quand on utilise lors d'une rencontre, une formule habituelle, comment ça va, etc. Quand on bavarde, etc. Quand on parle de la pluie et du beau temps, on se met en contact et on vérifie le contact. Hein, on vérifie le contact et la satisfaction aussi qu'apporte cette mise en contact, sur laquelle Malinowski va largement insister. Il écrit, la situation complète consiste en ce qui se passe linguistiquement. Chaque énoncé est un acte qui sert directement le but d'unir celui qui parle et celui qui écoute par le lien d'un sentiment social, d'une sorte ou d'une autre. Et donc c'est ce lien, c'est un sentiment social qui fait que finalement la communication s'établit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'un côté chez Malinowski une fonction informative du langage ou une fonction rituelle du langage, etc., qui serait complètement séparée, mais que la fonction de communication n'est possible que dans la mesure où, finalement, la fonction fatigue est agissante. Donc, on ne va pas séparer les registres. Il n'y a pas le bavardage d'un côté et la communication sérieuse de l'autre. Non, sans mise en contact par l'intermédiaire de certain nombre de parties du discours qui innervent le discours informatif, il n'y a pas d'information du tout. Alors je finis sur deux citations que je ne peux pas ne pas... Si les gens ne causaient pas, il serait futile de publier des journaux. Alors, il y a aussi, si on ne causait pas, les journaux auraient beau paraître, et on ne conçoit pas dans cette hypothèse leur publication, ils n'exerceraient sur les esprits aucune action durable et profonde. Il serait comme une corde vibrante sans table d'harmonie. Et il écrit en finalement, au point de vue politique, la conversation est, avant la presse, le seul frein des gouvernements, l'asile inexpugnable de la liberté. Elle crée les réputations et les prestiges, elle dispose à la gloire, etc., etc. Elle tend à égaliser les causeurs en les assimilant et détruit les hiérarchies à force de les exprimer. Voilà. Merci.